Suivez Priorité Santé avec Sounou Assurance qui a le bon profil pour vous accompagner à atteindre vos objectifs.
Le magazine que vous allez suivre est une rediffusion.
Priorité Santé, Caroline Paré.
Bonjour à toutes et à tous. Il y a 10 ans, en 2011, le rapport sur l'épidémie mondiale de sida de l'ONU SIDA pointait du doigt le manque d'implication de la Guinée-Conakry dans la lutte contre cette pandémie. L'instabilité politique des années 2000 avait retardé la mise en place d'un programme efficace de lutte contre le sida. Pourtant, les besoins étaient énormes sur les 85 000 personnes vivant avec le VIH que comptait le pays à l'époque. Près de la moitié n'avait pas accès au traitement. La PTME, prévention de la transmission de la mère à l'enfant, pour ne pas contaminer le bébé à naître, débutait péniblement et seules quelques femmes enceintes en bénéficiaient réellement. Une situation critique, voire alarmante pour de nombreuses ONG. Même chose pour les associations de patients qui demandaient à l'État de prendre ses responsabilités. Face à cette pression, des programmes de dépistage, de traitement et de suivi des malades se sont mis en place. Les ARV, les antirétroviraux, sont devenus enfin accessibles et gratuits. La PTME s'est développée, tout comme le suivi des patients avec le contrôle de la charge virale. Mais tous ces efforts sont à nouveau freinés. D'abord par l'épidémie de maladie à virus Ebola à partir de 2013, puis par la pandémie de Covid-19 aujourd'hui. Alors, 10 ans après ce rapport de l'ONU SIDA, où en est la Guinée dans la lutte contre le VIH? Comment vivent les quelques 120 000 personnes séropositives que compte le pays aujourd'hui? Quels sont leurs besoins, leurs attentes, leurs revendications? Et bien sûr, quel est l'impact d'Ebola et du Covid-19 sur la prise en charge des patients? Les défis de la lutte contre le VIH-Sida en Guinée-Conakry, c'est un reportage d'Igor Strauss.
Moi, j'étais mariée avec un gars. Il est décédé. Ma co-épouse aussi est décédée. Il ne m'a pas informée. Il ne m'a rien dit, mais j'ai douté sur lui. Donc, je suis venue directement à l'hôpital. Ils ont trouvé que aussi positif. C'est comme ça qu'on m'a pris en charge ici.
Lorsque son mari est décédé, après la fin du veuvage, ils l'ont dit que vraiment on n'a plus besoin de toi. Le frère de ton mari ne peut pas t'épouser. Va, on n'a plus besoin de toi. Donc ils l'ont chassée. Elle est partie. Tout dernièrement, comme ils l'ont vu, vraiment elle se porte bien, elle travaille, elle n'a pas de difficultés. Le même monsieur est revenu, soi-disant que vraiment, ce qui s'est passé, je suis désolée. Maintenant, je veux de toi en mariage. Elle dit, bon, écoute, le moment où j'avais plus besoin, vous m'avez rejeté tous. J'ai perdu mon mari, j'ai pas d'enfant, vous m'avez rejeté, vous m'avez cherché. Et là, tu reviens maintenant pour dire que tu veux de moi un mariage? Non, non, non.
Moi, c'est Sani Souriba Sorel. Je suis le secrétaire général de la Fondation Espoir Guinée, une association de personnes infectées et affectées par le VIH en République de Guinée. La stigmatisation a considérablement diminué dans la mesure où il y a eu la multiplicité des organisations, la société civile qui évolue dans la lutte contre le VIH-Sida et aussi les personnes vivant avec le VIH qui acceptent de faire le témoignage à visage découvert, à la télé, à la radio. Et ça aussi, la multiplicité des accompagnateurs psychosociaux qu'on appelle les APS dans les structures sanitaires. C'est dans cette optique que Soltis nous a accompagnés à mettre en place des outils pour identifier la personne à qui il a confiance pour lui partager son statut sérologique. Parce que le partage de statut aussi permet au patient d'accepter la maladie, mais si un patient n'arrive pas à partager son statut, il vit seul avec la maladie, il va être victime de deux choses, la stigmatisation et l'autostigmatisation. Donc si c'est l'autostigmatisation, dès qu'il voit les gens en train de parler du VIH, du coup il quitte, parce que pour eux, ils sont en train de parler de lui, donc il s'éloigne. Mais s'il a un confident, la personne peut lui donner le courage, il peut l'orienter vers les associations des personnes avec le VIH et du coup, il peut accepter la maladie et ça réduit considérablement la stigmatisation. Voilà.
Comme l'a dit mon collègue, avec la prise en charge sociale, on a pu aider pas mal de personnes. Et ces gens, il y a beaucoup encore qui vivent jusque-là. On en a. C'est vrai qu'on a perdu énormément de personnes, mais il y en a encore beaucoup qui sont encore en vie grâce à l'appui psychosocial.
Justement, il y a moins de décès.
Moins de décès aujourd'hui par rapport à hier, oui. Parce qu'on a accès aux antirétroviraux. Hier, tu pouvais voir toute une famille disséminée. Toute une famille disparaître. Aujourd'hui, non. Ceux qui ont accepté de vivre positivement, ils restent. Et qui continuent à prendre le traitement correctement. Ça, il faut le dire.
Igor Strauss, bonjour.
Bonjour Caroline, bonjour à tous.
Et pour commencer, deux bonnes nouvelles. La mortalité a baissé et la stigmatisation des personnes vivant avec le VIH a également diminué.
Oui, la mortalité a baissé parce que les antirétroviraux sont enfin disponibles et gratuits dans presque tout le pays. En revanche, les médicaments de deuxième ligne pour les patients qui sont résistants aux traitements de première ligne ne sont disponibles qu'à Conakry, ce qui pose problème. On y reviendra. Aujourd'hui, il y a environ 60 000 patients sous antirétroviraux en Guinée sur les 120 000 personnes vivant avec le VIH. En 2014, il y avait 23 000 patients sous ARV sur les 85 000 personnes vivant avec le VIH. Donc il y a une progression. Mais il faut préciser une chose importante. Ce chiffre de 120 000 personnes séropositives dans le pays est une estimation du logiciel Spectrum des Nations Unies basée sur une enquête nationale de sérosurveillance. Mais cela ne veut pas dire que les 120 000 personnes sont connues et dépistées. C'est une indication qui permet à l'État de savoir qu'il doit faire davantage en termes de dépistage pour trouver tous les patients séropositifs qui ignorent leur statut. Quant à la stigmatisation, elle a diminué certes, mais elle est encore très présente. Vous allez l'entendre tout au long de ce reportage, certains pensent encore qu'on peut être contaminé en se touchant ou en mangeant dans le même plat, ce qui évidemment est complètement faux.
Alors Igor Strauss, on va vous suivre au CHU de Donka, le principal hôpital du pays, en compagnie du professeur Tunkara Tierno Mamadou, chef d'unité de l'hôpital de jour.
Alors, l'impact de la COVID en matière de prise en charge des personnes vivant avec le VIH, force est de dire que l'impact n'a pas été que négatif dans notre réalité. Parce que figurez-vous, avant, on donnait par exemple des rendez-vous de 3 mois à des patients qui sont virologiquement stables, c'est-à-dire ils sont suivis, aujourd'hui leur charge virale est indétectable. Avec l'avènement de la pandémie, on a été obligé de leur faire des rendez-vous qu'on appelle à M6, c'est-à-dire qu'on donne un rendez-vous de 6 mois, tout ça pour réduire le nombre de fréquentations de la structure et minimiser le risque de contamination. Et du coup, ça a été quelque chose de fortement apprécié, aussi bien par le personnel que par les patients, parce que, eh bien, figurez-vous qu'avec cette pandémie, aussi bien le personnel soignant que les patients, chacun a pris un coup, parce que les gens avaient non seulement peur d'être contaminé parce que la rumeur, vous savez, la COVID, c'est aussi les rumeurs qui se sont emparées de toutes les populations. Les gens ont estimé que le simple fait de franchir le seuil de la porte de Donka les exposait à être contaminés par la COVID-19.
Inversement, est-ce que certains patients qui devaient être suivis plus régulièrement ne sont plus venus? Est-ce qu'il y a eu plus de perdus de vue, comme on dit, des gens qui avaient peur de venir à l'hôpital, ils ne prenaient plus leur traitement finalement?
Oui, la fréquentation a baissé. En ce moment même, les associatifs sont en train de faire un travail parce que nous avons voulu savoir est-ce que nous avons eu plus de perdus de vue que de par le passé. Donc le travail est en cours, nous attendons impatiemment qu'on nous fasse le point de cette situation. Mais pour tout vous dire, nous n'avons pas eu l'impression d'avoir à résister plus de perdus de vue que de par le passé.
Vous pensez qu'on peut visiter? Vous me faites
jeter
un petit regard?
On peut visiter les portes.
Ah, sans quitter un peu votre
bureau. Les portes sont ouvertes. J'ai envie de dire prochainement, revenez chez nous sans qu'il n'y ait une épidémie. En 2014, vous étiez là.
Juste avant Ebola.
Juste avant Ebola. Maintenant, vous venez au moment de la COVID. On aimerait bien vous recevoir quand il n'y a pas d'épidémie.
En temps stable.
En temps stable. Voilà.
Alors on repasse dans les petits couloirs, on entend ça résonne, hein. On voit qu'il y a une belle couche de peinture rouge.
Pas qu'une belle couche de peinture rouge, vous êtes dans des locaux qui ont été rénovés et nous sommes en train aussi d'aller, si vous voulez, vers une extension. Je vais vous montrer l'espace qui est prévu. Et là, eh bien, vous serez l'œil des auditeurs pour dire que vous avez trouvé bien sûr un bâtiment.
Alors
qui
là,
est
c'est un grand bâtiment, beaucoup plus moderne effectivement.
Voilà, beaucoup plus moderne comme quoi.
Contigu à ce petit espace dans lequel vous recevez les patients.
C'est ce petit espace qui a donné naissance à ce bâtiment que vous avez appelé beaucoup plus moderne, qui abrite le laboratoire.
Donc c'est trois étages, c'est ça?
Oui, c'est un R plus 2 plutôt, où le premier, le rez-de-chaussée est consacré au laboratoire de biologie moléculaire. Et c'est là où nous faisons, si vous voulez, tous les examens qui entrent dans le cadre du suivi des personnes vivant avec le VIH.
C'est ici. CD4, charge virale, c'est ça?
Charge virale, la biochimie, l'hématologie. Tous ces examens sont effectués dans ce laboratoire. Et encore une fois, je pense que cette possibilité de réaliser ces examens aussi a considérablement amélioré la qualité de la prise en charge de nos patients.
Alors, continuons à parler d'examens biologiques, de suivi biologique. On a bien compris que les CD4, la charge virale, étaient disponibles et gratuits. En revanche, déjà en 2014, avec le professeur Cissé, il regrettait que certains examens complémentaires, biologiques notamment, soient payants.
Écoutez,
est-ce que c'est toujours le cas?
Oui,
est-ce
que j'exprime.
La radiographie, si vous, les examens biochimiques.
Si vous voulez, 6 ans après ce premier regret, aujourd'hui, j'exprime le même regret parce que, quand bien même il y a eu des efforts dans l'amélioration de la prise en charge, il reste encore des défis. Parmi ces défis-là, ça reste la gratuité de ces examens parce que ça va favoriser encore une fois l'accès aux soins. Parce qu'il arrive des fois, même si ce n'est pas une situation qui est toujours élevée, mais il arrive des fois que les patients ne viennent pas à l'hôpital par le simple fait de ne pas avoir l'argent pour payer ces examens-là. Donc c'est aussi un frein à l'accès au traitement. Or, comme vous le savez actuellement, le traitement du VIH ce n'est pas que curatif, c'est aussi de la prévention. Si on veut maîtriser l'épidémie, il faut que les gens aient accès au traitement. Et tout ce qui peut être un frein à cet accès doit être, si vous voulez, levé.
Docteur Youssouf Kouita, je suis le coordonnateur du programme national de lutte contre le sida et les hépatites au ministère de la Santé. La gratuité globale, c'est un de nos objectifs, mais nous ne savons pas comment nous allons y venir. Ce qui est le plus important, c'est que sur un certain nombre de prestations, l'État a pris la responsabilité de les rendre gratuits. Le test de dépistage du VIH est gratuit, la prise en charge antirétrovirale est gratuite, le suivi biologique, charge virale et CD4 sont gratuits. Nous avons mis en place un certain nombre de services de biologie de routine pour les rendre aussi gratuits, mais avec ciblage. Avec ciblage des patients. Parce qu'il faut reconnaître que nous ne pouvons pas, à ce stade, avoir tous les moyens de rendre tous les services gratuits. C'est quasiment impossible. Mais au moins, pour certains nombres de patients qui sont dans une situation précaire économiquement, qui sont déjà connus dans les sites de prise en charge, heureusement, nous avions, avec l'appui de l'État et du Fonds mondial, fait la commande d'un certain nombre d'intrants de laboratoire pour la biologie de routine pour ces patients, pour que ces patients aussi puissent bénéficier de cette biologie de routine. C'est vrai qu'elle n'est pas mise sur l'ensemble des patients, mais au moins 1 ou 2% des patients bénéficient de la biologie de routine, gratuitement.
Igor Strauss, quels sont les examens complémentaires dont on parle et pourquoi sont-ils si importants dans la prise en charge et le suivi?
Bien, on parle de la biochimie, des examens d'hématologie et de l'imagerie. Tous ces examens sont normalement un préalable à la mise sous antirétroviraux. Ils permettent de bien adapter le traitement et, dans le cadre du suivi, de voir si ce traitement agit correctement. Le fait qu'il soit payant est donc un gros problème à la fois pour les patients et les médecins.
Et en fait, Igor, ce n'est pas le seul problème rencontré par les personnes qui vivent avec le VIH.
Non, il y en a d'autres, comme le rappelle Kadiatou Boy Baldé, la présidente de la FEG, la Fédération Espoir Guinée, une association de personnes infectées et affectées par le VIH, très actifs en Guinée.
Les réactifs manquent, les appareils qui sont généralement en panne. Ce n'est pas au niveau de toute la Guinée qui est disponible aussi. À l'intérieur du pays, il y a vraiment des problèmes là-bas. Ça, il faut l'avouer. Il faut oser le dire. À l'intérieur du pays, il y a des très gros problèmes là-bas. Les molécules aussi de la deuxième ligne, c'est les molécules qui se font très rares. Et ça fatigue les patients qui sont sur ces molécules-là, qui ont aussi les moyens qui sont limités. Et aussi, leur situation géographique ne leur permet pas de se déplacer pour imaginer une personne qui se trouve à Zérékouré, qui est sur la molécule de la deuxième ligne, il est obligé de venir jusqu'à Conakry. combien de kilomètres il doit parcourir pour être là, pour s'approvisionner. Et là aussi, même s'il veut, il ne peut pas avoir une dotation même de 3 ou 4 mois. Imaginez maintenant une personne qui n'a pas un logement, un local où rester à Conakry pour se faire traiter. Donc, il va tout le temps être sur la route pour se faire approvisionner de ses médicaments. Donc, on a ce véritable problème.
Igor Strauss, ces deux problèmes ont donc des origines différentes. Pour la décentralisation des médicaments de deuxième ligne, il s'agit d'un problème structurel. Pour le réapprovisionnement des intrants qui permettent, entre autres, de contrôler la charge virale, là, c'est un problème lié au Covid-19.
Oui, puisque ces intrants sont livrés par avion et que, comme vous le savez, le transport aérien a été très perturbé pendant la pandémie.
Autre conséquence directe de cette pandémie de Covid-19, la baisse des financements de la lutte contre le sida. Le docteur Abbas Diakité est le secrétaire exécutif du CNLS, le Comité national de lutte contre le sida, qui dépend de la présidence de la République.
Il faut reconnaître quand même qu'avec l'avènement toujours de ces maladies, il y a une réduction importante du budget de l'État par rapport à la lutte contre le sida. Et la raison est très simple. Quand il y a eu Covid, le gouvernement s'est attelé pour développer un plan. Et ce plan était très costaud et ça demandait beaucoup de ressources. Donc il fallait faire des sacrifices dans certains endroits. C'est pourquoi le budget a connu une réduction considérable. En date, pour, par exemple, en ce qui concerne la loi des finances rectificatives de 2021, le montant global, ça fait moins de 20 milliards de francs guinéens. De 20 milliards, c'est à peu près 2 millions d'euros. Alors que avant ces épidémies, le montant était nettement supérieur à ça. Donc ça se comprend. Les services sociaux tels que la gratuité de l'eau, de l'électricité, autre chose, que le gouvernement était obligé de faire face, et même des entreprises qui étaient défaillantes pendant cette période, que ce soit en Guinée ou ailleurs, l'État aussi était obligé de faire face à cette situation pour un peu aider les entreprises à se relever.
Alors toujours en termes de financement, on sait que le Fonds mondial finance notamment les antirétroviraux, la charge virale, des choses très cliniques, on va dire. Qu'en est-il du financement des associations de patients, du travail extraordinaire que font les assistants psychosociaux, toutes ces professions qui ont besoin de l'aide de l'État? Est-ce que vous comptez renforcer le budget pour aider ces partenaires essentiels de la lutte contre le sida?
Naturellement, c'est le plaidoyer que nous faisons régulièrement parce que nous avons compris que le seul secteur de la santé ne peut pas lutter contre le sida en Guinée comme ailleurs. D'ailleurs, la stratégie actuelle, c'est un peu la démédicalisation de la lutte contre le sida. Et cette démédicalisation ne peut pas être possible s'il n'y a pas une forte implication de la société civile. Donc nous reconnaissons effectivement le rôle de ces partenaires de la société civile vraiment pour relever le défi de la lutte contre le sida dans notre pays.
Des finances en baisse donc, puisqu'une partie importante du budget a été transférée vers la lutte contre le Covid-19.
Oui, mais même sans ce transfert d'argent, le budget total de la lutte contre le VIH ne couvrait que 70% des besoins, selon le docteur Koïta du PNLS, le Programme National de Lutte contre le Sida. Pourtant, le gouvernement guinéen a fait des efforts ces dernières années. En 2014, l'État consacrait 200 000 euros par an à la lutte contre le VIH. Ce budget est monté à près de 6 millions par an juste avant le Covid, avant de redescendre à 2 millions en raison de la pandémie. Tout cela explique donc les difficultés de l'État à financer les examens complémentaires et les APS, les assistants psychosociaux. Alors pour pérenniser les budgets, l'État souhaite donc trouver d'autres modes de financement. Des taxes minières, pétrolières ou sur les billets d'avion sont des pistes de réflexion.
Le Covid-19 a également perturbé le bon fonctionnement des hôpitaux et le suivi des personnes personnes vivant avec le VIH. Du coup, l'ONG française Soltis, Solidarité Thérapeutique et Initiative pour la Santé, qui intervient en Guinée depuis 2008, a lancé un nouveau projet, il s'appelle Isanko.
Isanko, qui signifie intervention sanitaire en réponse à la crise de Covid-19. L'objectif est simple, atténuer l'impact du Covid sur les patients et les soignants. Amadou Camara, le coordonnateur du projet Isanko.
Ça a été constaté que, puisque les personnels soignants se contaminaient, ils avaient des craintes pour revenir dans les services. Et aussi, les patients aussi se voyaient qu'ils se contaminaient à l'hôpital, ils avaient des craintes. Qu'est-ce qu'il faut mettre en place pour permettre aux personnes vivant avec le VIH pour continuer leurs soins? Donc, le projet a été initié pour ça. Puisque les gens, les patients sont en assurance, sont assurés qu'ils sont protégés. Il y a tout le matériel qui est là. Quand ils viennent, on les approvisionne des masques, on leur donne aussi des gels pour se laver les mains. Et puis aussi, on a mis aussi des distanciations physiques dans les services. Donc, ça a mis les patients en conscience, en confiance. Et aussi, dans le projet, aussi, on a aussi des APS.
Les assistants psychosociaux.
Assistants psychosociaux. Qui aussi ont été prises en charge, on leur donne aussi des appels pour les relances téléphoniques qui permettaient aussi de revoir, puisqu'ils ont improvisé le programme aussi avec les services de prise en charge, ceux qui manquent leur rendez-vous pour les relancer, les perdus de vue aussi, les chercher même dans les communautés pour aller les sensibiliser. Et nous avons aussi préparé des kits pour ça quand ils viennent, pour les encourager à revenir encore, on leur remet aussi des masques, des gels pour leur dire que non, vous pouvez venir, tout va bien, en utilisant aussi, vous êtes protégés. Donc ça a permis de faire la continuité des services, que les personnels maintenant des services viennent régulièrement dans les services et les patients aussi viennent régulièrement chercher leurs ARV pour les protéger et puis pour assurer leur survie.
Vous écoutez Priorité Santé sur RFI aujourd'hui. Nous sommes à Conakry, en République de Guinée, pour parler de la prise en charge des personnes vivant avec le VIH. Une prise en charge organisée tardivement dans le pays, ce qui a provoqué la colère des ONG sur place et des associations de patients qui sont particulièrement mobilisés et à qui l'on doit de nombreuses avancées. Mais alors que des programmes de dépistage, de traitement et de suivi des malades se développaient, l'épidémie de maladie à virus Ebola, puis la pandémie de Covid-19 ont porté un sérieux coup de frein à la lutte contre le VIH. Les défis de la lutte contre le VIH-Sida en Guinée-Conakry, voici la suite du reportage d'Igor Strauss.
On a fait des sensibilisations communautaires pour la prévention du Covid au niveau de Conakry et Koya. On a distribué des vivres aux patients démunis pour leur permettre de rester, de respecter les mesures barrières. Parce que vous savez, une personne qui est affamée, il ne peut pas respecter les mesures barrières. Il est obligé de sortir et chercher quoi manger. Donc on a jugé nécessaire, on a eu un peu de vivres et des kits. Kits de lavage des mains qu'on a distribué aux patients démunis et on a distribué les kits au niveau des structures sanitaires là où nous évoluons. Soltis et MSF nous accompagnent pour faire les sensibilisations communautaires et faire le dépistage. Par exemple, au mois de décembre, on a eu 2 semaines qu'on passe sur le terrain. On cible des grands carrefours ou bien des grands sites. On vient, on sensibilise, on dépiste.
Et alors, il y a beaucoup de séropositifs ou pas?
Bon, ça dépend des lieux. Parce que les sites là où il y a beaucoup d'informations, généralement, on trouve moins de positifs. Mais là où il y a moins d'informations, par exemple, l'année dernière, ils ont été à Cancan. Sur les cas dépistés, ils ont eu 60% des cas positifs.
Donc c'est énorme.
C'est énorme.
Et ça, c'était par manque de sensibilisation, par manque de disponibilité des préservatifs, par manque de quoi?
L'accessibilité du préservatif cause un petit problème. Parce qu'aujourd'hui, pour avoir le préservatif, il faut que tu sois vraiment dans une site de prise en charge que tu te rends. Donc, il n'y a pas de point de distribution où les gens viennent s'approvisionner en préservatif.
En toute discrétion.
En toute discrétion, il n'y en a pas. C'est le plan international Guinée a mis en place une stratégie de distribution communautaire. Ils ont identifié certains hôtels dans les couloirs, aux toilettes, où ils approvisionnent en stock. Donc, ça, c'est en expérimentation.
C'était Kadiatou Boy-Baldé, la présidente de la FEG, la Fédération Espoir Guinée, une association de personnes infectées et affectées par le VIH. Igor Strauss, on l'a dit, ces associations de patients sont extrêmement actives sur le terrain.
Bah, très actives, et elles obtiennent des résultats surtout. Alors on parle de la FEG, Fédération Espoir Guinée. C'est une des plus anciennes associations de patients, créée en 1998, qui a permis notamment à la Guinée de bénéficier de la subvention du Fonds mondial. On peut également citer RegaPlus, le réseau guinéen des associations de personnes vivant avec le VIH, qui fait beaucoup pour le plaidoyer et lutte contre la stigmatisation. Alors, de façon générale, toutes les avancées se font avec le gouvernement et les ONG, évidemment, mais les associations ont toujours un rôle important dans les prises de décision, qu'il s'agisse de la dispensation des traitements pour 6 mois, de la création des points de distribution communautaire, qu'on appelle les PODI, et qui permettent aux patients d'aller chercher leur traitement auprès d'un bénévole, sans passer par l'hôpital. Les associations de patients sont un maillon essentiel de la lutte contre le VIH.
Et puis il y a ceux et celles qu'on appelle les APS, assistants psychosociaux, des bénévoles qui interviennent à l'hôpital et qui ont un rôle crucial.
Un rôle crucial, et c'est un euphémisme. Disons-le clairement, Caroline, heureusement qu'ils sont là. On l'a dit, aujourd'hui en Guinée, le dépistage, le traitement et la charge virale sont gratuits, mais il n'y a aucun soutien psychologique, aucune cellule d'écoute. Seuls les assistants psychosociaux sont là pour soutenir les patients lors de l'annonce du résultat, pour les réconforter, les écouter, pour expliquer la maladie, le traitement, les effets secondaires, pour aller rechercher les perdus de vue, ceux qui ne viennent plus au rendez-vous et ne prennent plus leur traitement. Certains APS, les assistants psychosociaux, jouent même le rôle d'agent matrimonial. Ils trouvent des époux ou des épouses aux malades qui leur font la demande, ça ne s'invente pas. Aïssatou Lamara Naba et Joseph Balat sont les deux APS du CHU de Donka. Toute la journée, ils reçoivent du monde, conseillent, consolent dans leur petit bureau collé à celui du médecin.
En fait, Akolon Misara m'a rappelé, Akolon Covid-19, Miri bébé, Mounoufa, hôpital, parce que Agaroune, Gifurera.
Donc là, il s'agit de quoi s'agit-il?
Il s'agit des gens qui ont pu avoir la R6e, les 6 mois de traitement. Donc, il faut qu'on les appelle pour les rassurer que vraiment, qu'ils ont ici, moi, c'est parce que les résultats sont bons et que pendant les 6 mois là qu'ils ne viennent pas à l'hôpital, nous, on va les appeler de temps à temps pour connaître leur situation. Est-ce qu'ils n'ont pas d'autres problèmes? Mais maintenant, s'ils ont des difficultés aussi de revenir.
Donc ça, c'est 6 mois de traitement.
Oui.
C'est la nouveauté en raison du Covid-19.
Oui.
Pour éviter de prendre des risques inutiles.
Mm-hmm.
Mais du coup, ça les... c'est bien pour eux, ça les arrange?
Oui, ça les arrange.
Je peux lui demander à la dame si ça...
Oui.
Bonjour madame. Vous parlez français?
Un peu.
Un peu. Donc vous avez un traitement pour 6 mois.
Oui.
Est-ce que ça vous arrange?
Oui. Chez moi, le transport est trop. Il n'y a pas l'argent. Manger difficilement. Donc 6 mois, c'est bon.
Maintenant, est-ce que tu acceptes qu'on te rende visite pendant ces 6 mois-là? Si vraiment on veut te rencontrer, voir si ça va avec toi. Tu acceptes les visites à domicile?
Oui, j'accepte.
D'accord.
Bonjour mademoiselle. Juste, est-ce que ça vous arrange, vous, de venir ici que tous les 6 mois?
Oui, ça m'arrange très bien.
Et vous habitez loin d'ici ou pas?
Oui, un peu loin.
Vous, ça fait combien de temps vous connaissez l'équipe Aïssatou et les APS, comme on dit?
Ça fait 2 à 3 ans comme ça, oui.
En quoi ils vous ont aidé, les APS?
Oui, ils m'ont beaucoup aidé. À l'époque, je me sentais très mal parce que je souffrais beaucoup, quoi, sans me rendre compte. Mais après avoir les rencontrés ici, mais là, maintenant, je peux dire Dieu merci parce que je me sens en forme. Avec les traitements, leurs conseils, ça me va très bien. Je sens que mon corps est bien, quoi. Oui.
Vous êtes jeune, vous avez quel âge?
J'ai 20 ans.
Comment vous avez découvert que vous étiez séropositive? Et quel âge vous aviez à l'époque?
Bon, j'avais à peu près 18 ans. Je me sentais très mal en ce moment. Je tombais beaucoup malade aussi. Mais après avoir rencontrer les docteurs d'ici et commencer les traitements. Là, je ne tombe pas beaucoup malade. Je me sens en forme.
Vous pouvez en parler avec vos copines ou pas?
Non, je ne peux pas. Parce que j'ai peur que si j'en parle à mes copines, qu'elles ne s'éloignent de moi, quoi. Parce qu'elles vont avoir peur que je les contamine. Elles vont s'éloigner de moi. C'est pourquoi j'ai peur de les en parler.
Mais elles ne sont pas au courant? On ne se contamine pas comme ça?
Oui, mais d'autres ne le savent pas. D'autres pensent que, en fait, de se toucher ou de manger dans les mêmes assiettes, que vous pouvez vous contaminer, alors que ce n'est pas le cas.
Ça, c'est un peu des raisonnements que les villageois avaient à l'époque. Les jeunes, aujourd'hui, encore à 20 ans, ils disent ça. Que c'est en mangeant ensemble qu'on peut attraper la maladie.
Oui, c'est parce qu'ils ne sont pas informés. Oui.
Viens, s'il te plaît.
Anne, viens. Aïssa, sous-moi, Aïssa.
Vous, ça fait longtemps que vous connaissez Aïssatou?
Ça fait 9 mois comme ça, je suis là. J'étais malade, paralysée. Je suis venu ici, faire le test et dire ces maladies-là. J'ai commencé un traitement, ça va maintenant. Mon mari aussi, chaque fois, il est malade. Mais il ne vient pas ici.
Et il n'a pas fait le test?
Je ne sais pas.
Oh, merci, madame. Vous connaissez bien le cas de madame?
Bien sûr.
Son mari, on ne sait pas s'il a fait le test ou pas.
Elle, quand elle est tombée malade, elle a informé son mari. Mais le mari, il est toujours réticent. Il dit qu'il ne croit pas, donc qu'il ne vient pas.
Ça, c'est fréquent, ça arrive souvent, ça.
Oui, ça arrive. Parfois, ça arrive, mais...
Ça arrive parfois ou ça arrive tout le temps?
Ça revient par moment. Parce que d'autres refusent catégoriquement et disent « Ah, c'est son problème. Moi, je ne suis pas concerné. Je ne viens pas. » C'est un refus total. Parce qu'on ne peut pas aussi le forcer, le tordre la main pour lui faire venir. Il faut qu'il vienne de son propre gré.
Donc là, vous allez prendre 2 nouvelles patientes en même temps, c'est ça?
Oui, en même temps.
Pour une séance de counseling?
Oui.
Ça, c'est tous les jours, vous faites du counseling?
Tous les jours. Tous les jours. Et ça, ce sont les nouveaux cas. Il y a les cas d'inobservance, et il y a ce qu'on parle aussi avec COVID, il y a ceux qui ont des difficultés dans les couples, il y a la charge virale, il y a plein d'activités en fait. Ce qui fait qu'on dit aujourd'hui le bureau c'est un peu restreint pour nous parce que la charge du travail ça ne fait qu'augmenter. Regardez par exemple la recherche de perte de vue qui est là.
Ah, ça c'est tous les dossiers des pertes de vue. Donc il y a une cinquantaine de dossiers.
Oui, à partir de 14h, qu'on arrête avec les nouvelles inclusions, avec toutes les autres activités et on va s'occuper de la recherche de perte de vue. Mais ça dépend aussi des patients, parce que si 14 heures on reçoit une nouvelle personne, on ne peut pas rejeter, dire qu'il faut rentrer et revenir demain. On est obligé de stopper ça et prendre la personne.
Depuis 2014 et ma dernière visite, vous trouvez que les gens sont de mieux en mieux informés ou il y a toujours ce même manque d'information?
Les gens sont informés aujourd'hui.
Il y a un changement?
Oui, il y a un changement. Il y a l'Internet qui est là, hein. Il y a certains qui sont intellectuels qui fouillent. Mais il y a d'autres aussi, quand on commence à expliquer, ils disent « Ah, mais moi je ne savais pas tout ça. » Donc, des fois, on peut faire 1h30, 2h pour une personne. Vous avez vu? Donc, si on trouve que vraiment la personne là, il demande beaucoup, des fois, on donne 3 jusqu'à 4 séances. Avant de commencer à donner les ARV.
Ah, c'est beaucoup, quoi.
Ouais. Il va l'ordonnance, toi.
Thank you.
Vous écoutez Priorité Santé sur RFI. Aujourd'hui, nous sommes à Conakry, en République de Guinée, pour parler de la prise en charge des personnes vivant avec le VIH. Igor Strauss, nous nous rendons à présent au CHU d'Ignace Dine, un deuxième hôpital du pays, pour parler de la PTME, la prévention de la transmission de la mère à l'enfant.
Oui, la PTME a débuté il y a 8 ans au CHU d'Ignace Dine, mais malgré les progrès dans la prévention de la transmission de la mère à l'enfant ces dernières années, bien moins de 2 enfants exposés au VIH sur 10 bénéficient d'un dépistage précoce et moins d'un enfant infecté par le VIH sur 10 bénéficie d'un traitement. Pourtant, on le sait, le dépistage précoce du sida chez les nourrissons dont la mère vit avec le VIH est un enjeu crucial pour permettre un traitement immédiat des enfants infectés. Sans dépistage, eh bien, pas de mise sous traitement. Et sans traitement, la majorité des enfants risquent de mourir avant l'âge de 3 ans.
On part maintenant dans le service pédiatrique de ce CHU Ignace Dine avec le docteur Yalikatou Camara qui s'occupe des enfants séropositifs.
Écoutez, la PTME, elle est disponible sur toute l'étendue du territoire national guinéen, en tout cas. Mais le problème, c'est que les femmes sont suivies, par exemple, dans un centre. Elles viennent à Ignace Dine pour l'accouchement. Peut-être qu'elles ont peur d'être stigmatisées. Elles ne déclarent pas qu'elles sont positives. Elles cachent leur séropositivité. C'était la vigilance de l'équipe de la maternité pour mettre en place le rattrapage, le dépistage du rattrapage. On allait avoir assez de problèmes. Parce que même pour les enfants positifs, les femmes, quand elles viennent, elles savent que leur enfant est positif. Peut-être qu'il a été dépisté ailleurs. Quand elles viennent, elles cachent le carnet pour ne pas que toi, médecin, peut-être, qui est en train de voir cet enfant, sache le statut de l'enfant. Ça, c'est un problème. Mais il y en a quand même qui déclarent. Ça, il y en a. Mais il y a d'autres qui cachent carrément. Et en ce moment, vous n'allez pas pouvoir prendre en charge cet enfant qui va naître d'une mère séropositive. La prise en charge des enfants, c'est la clé. Pour moi, je ne le dis pas parce que je suis pédiatre, c'est la porte d'entrée, en fait, pour moi.
Ben, c'est la façon d'arriver à 0 nouvelle infection.
C'est ça notre objectif. 0 nouvelle infection chez les nouveau-nés, 0 transmission mère-enfant du VIH-Sida. C'est ce que nous souhaitons. Et c'est pour ça qu'on se bat depuis le début de ce programme.
Alors, on va voir dans le couloir s'il y a des mamans.
Ouais.
Là, effectivement, il y a une bonne dizaine de mamans qui attendent. Hein.
Ah oui, oui. Il y en a qui sont là depuis 7 heures. Bon, madame Bénéfice.
Ça va?
Ça va
bien? Assieds-toi là.
L'enfant, il a quel âge? Il a 1 an, 5 mois.
1 an, 5 mois.
Il a bénéficié d'un premier examen quand il était tout bébé à 6 mois.
Oui.
N'est-ce pas?
Oui.
C'était négatif.
Oui, c'était négatif.
À 9 mois, il a bénéficié aussi d'un deuxième. Et ça aussi, c'était négatif. Et donc, on attend le 18e mois pour pouvoir confirmer définitivement la négativité de votre enfant. C'est ça? Quel est votre sentiment par rapport à la prise en charge de votre enfant?
Bon, je suis très contente. Je suis heureuse pour mon enfant. Je suis heureuse.
Ça fait plaisir d'entendre ça. Vous avez combien d'enfants?
J'ai 3 enfants.
3? Oui. Et c'est le dernier?
Oui, oui.
L'avant-dernier à quel âge?
Presque 4 ans, 3 ans et quelques.
Elle a été testée aussi pour le VIH?
Oui, oui. Elle était négative.
Elle est
négative. Oui, oui.
Donc, bien que vous soyez positif du VIH-Sida, tous vos enfants sont négatifs, c'est ça?
Bon, j'ai 2 enfants, l'autre est décédé, c'est un qui reste.
Ah, d'accord.
Décédé de quoi, vous savez,
décédé
madame?
Décédé de quoi?
Bon, elle, on avait dit ici qu'elle avait la VIH.
Elle avait le VIH. Donc la première est décédée du VIH. Les autres enfants, puisque vous étiez bien suivis, ont survécu. Oui. Et heureusement, ils sont négatifs.
Oui. Bravo.
Quel est votre sentiment par rapport au traitement préventif sur le VIH?
Bon, en pensant de mon enfant, celle qui est décédée, je me sens coupable d'une autre part. Mais grâce à Dieu, ça va maintenant avec l'aide.
Moi, je dirais que ce n'est pas un sentiment de culpabilité parce que vous ne saviez pas. Vous ne connaissiez pas votre statut. C'est ça. Mais maintenant que vous connaissez votre statut, vous prenez correctement les médicaments, vous êtes en bonne santé et votre bébé, les deux sont en bonne santé. On vous encourage.
D'accord.
Je peux vous poser une petite question, madame? Comment est-ce que vous avez découvert que vous étiez séropositive?
C'est mon enfant qui est tombé malade, on est venu ici. C'est tante même qui m'a donné. Elle m'a conseillé de faire l'examen. Je suis partie, je vais faire l'examen. Entre-temps, ils ont trouvé que l'enfant elle était séropositif. Bon, elles m'ont encouragé de prendre les médicaments et aussi de suivre l'enfant. Mais malheureusement, elle n'a pas vécu. Je suis là. Je prends tous ces médicaments. Je veux que Dieu m'aide pour que lui, il s'en sort. Oui, c'est tout ce que je veux.
Et votre mari?
Lui aussi, il est séropositif. Lui, il prend ses médicaments normaux.
Donc, le prochain rendez-vous pour vous, pour le bébé, ce sera au 18e mois. Il ne faudrait pas oublier. Et on va continuer, vous, votre suivi.
D'accord, merci bien. Je suis satisfaite. Merci.
Le sida, c'est partout. Sur l'Internet, les gens ont le téléphone. Ils lisent, ils connaissent les modes de transmission, mais ils s'entêtent. Alors que si vous êtes suivi, vous prenez correctement les médicaments, et c'est un comprimé par jour, les soirs, pour les adultes. C'est pas compliqué. Vous avez votre vie qui est sauvée, et la vie de votre famille qui est sauvée. Les enfants vont naître en bonne santé. Mais c'est difficile. Ce travail est difficile.
Permettre de réduire les délais de l'obtention des résultats, souvent très longs à cause des tests de diagnostic conventionnels utilisés et du retard de l'acheminement des échantillons au laboratoire, eh bien l'ONG Soltis a testé une solution assez innovante pour accélérer la mise sous traitement des enfants infectés.
Et cette solution, c'est le transport par drone d'échantillons sanguins pour réduire la morbidité et la mortalité des enfants nés de mères vivantes avec le VIH. Alors concrètement, les enfants sont testés au service de pédiatrie de l'hôpital national Ignace Dine, alors que le laboratoire de biologie moléculaire se trouve à l'hôpital national de Donka. Et si vous connaissez Conakry, eh bien vous savez que les embouteillages sont permanents et qu'on perd un temps fou à se déplacer ou à déplacer des échantillons. L'utilisation des drones pourrait donc être une solution pour réduire le temps d'analyse de ces échantillons et donc de réduire le temps de la mise sous traitement des nourrissons.
Alors, quelle est la nouvelle stratégie du gouvernement pour améliorer la lutte contre le VIH? Quelles sont ses priorités? Éléments de réponse maintenant avec le docteur Youssouf Koïta, le coordonnateur national du PNLS, le programme national de lutte contre le sida et les hépatites.
Nos priorités, c'est vraiment la mise en place des stratégies différenciées. Quand vous prenez les stratégies différenciées de dépistage, c'est que dans toutes les poches d'entrée des patients ou des clients, que tous bénéficient d'un dépistage, que ce soit en PTM, que ce soit à la vaccination, que ce soit à la planification familiale, que ce soit au niveau de l'accouchement, en chirurgie, partout, toutes les poches d'entrée vont être utilisées pour que tous les patients qui rentrent par ces poches d'entrée puissent bénéficier d'un dépistage systématiquement. Nous sommes en train aussi de développer ces dépistages dans les centres où les jeunes viennent se rencontrer, dans les structures communautaires avec l'appui de la société civile. Toutes ces portes d'entrée, ces entités vont servir pour pouvoir bénéficier du dépistage. Pour le deuxième 90, nous pensons que tous ceux qui seront dépistés seront positifs, parce qu'aujourd'hui, nous l'avions, quand nous prenons nos chiffres, nos statistiques de dépistage, près de 95% des personnes qui connaissent leur statut sérologique sont sous traitement. Donc nous avons l'espoir que si nous dénichons les patients séropositifs, ils vont bénéficier systématiquement de traitement. Donc, le problème ne se pose pas sur le deuxième 90 si l'effort est mis en place pour dénicher toutes les personnes séropositives. Il va en être de même que pour le troisième 90. Là, il faut que beaucoup d'efforts soient mis en place pour pouvoir trouver les intrants de charge virale. Puisque là aussi, il est prévu au moins que tous les patients qui sont sous traitement antirétroviral puissent bénéficier de une ou de deux charges virales par an pour pouvoir faire leur suivi. Donc aujourd'hui, nos efforts sont beaucoup plus concentrés sur le dépistage pour le premier 90 parce que nous pensions que si nous atteignons ce premier 90, nous pouvons facilement aussi suivre les deux autres 90.
Merci docteur Koyuta.
Merci bien.
Professeur Tunkara, avec votre expérience, quel bilan faites-vous de la lutte contre le VIH-SIDA? Qu'est-ce qui reste à améliorer en définitive? Où se situe la Guinée?
Aujourd'hui, je puis affirmer qu'il y a eu des progrès. Il y a eu des progrès qui se traduisent, comme vous le savez, d'abord la gratuité du traitement sur toute l'étendue du territoire. L'accès à la charge virale, même si au niveau de, à l'intérieur, cet accès reste encore timide, mais notons aussi l'augmentation du nombre de sites de prise en charge, aussi bien de la prise en charge globale, mais aussi au niveau de la prévention de la transmission mère-enfant du VIH. Une fois que j'ai dit tout ça, il faut relever le fait qu'il y a encore des défis. Ces défis, c'est, si vous voulez, c'est la disponibilité de cette charge virale au niveau des sites qui ne relèvent pas de la capitale ou des autres zones, mais c'est aussi la gratuité des examens de biochimie et d'hématologie ou d'imagerie quand l'indication se trouve. Donc oui, la Guinée s'en sort mieux, même si il y a encore du progrès à faire. La situation de la COVID ne doit pas faire oublier qu'il y a d'autres défis auxquels le pays, comme la plupart des pays, était confronté avant la COVID. Donc oui, on fait face à la COVID, c'est une très bonne chose, mais que cela ne nous amène pas à oublier qu'on avait aussi d'autres chantiers sur lesquels on était, si vous voulez, en passe de maîtriser la situation. Donc, il faut, malheureusement, les circonstances l'obligent, il faut rester sur plusieurs fronts en même temps, parce que tout cela vise un seul objectif, c'est la santé de la population, et le pays se sentira mieux lorsqu'on fait une prise en charge incluant tous ces aspects. Si tout est prioritaire, on n'a pas le choix, on fait face à tout.
Merci, professeur Tunkara.
C'est moi qui vous remercie.
Les défis de la lutte contre le VIH-SIDA en Guinée-Conakry, c'était un reportage d'Igor Strauss, réalisé par Didier Bleu. Demain, nous allons parler de la dépendance affective dans Priorité Santé. Comment en sortir? On se dit donc à demain. D'ici là, portez-vous bien et lavez-vous bien les mains.
C'était Priorité Santé avec Suno Assurance, qui a le bon profil pour vous accompagner à atteindre vos objectifs.